morning show there is.
Boulevard Against le matin.
Hello!
Boulevard.
Oh, Carlito!
102-1.
Votre cadran vient de sonner, bien, je vous le dis, il est 7h46 exactement. Vous êtes à Boulevard Against le matin sur Boulevard 102.1. Meilleure façon de nous écouter, l'application Boulevard 102.1 disponible App Store, Google Play Store. Venez nous voir sur twitch.tv/BLVD/FM parce qu'on va faire une excellente chronique avec Farnell Morisset, entre autres. Et également, on est disponible sur la web radio au BLVD.FM. Et pour réagir, c'est toujours le 418-971-1021 max. Mise à jour circulation.
C'est terminé pour l'accident en tant que tel sur Capitale Ouest. Par contre, ça reste excessivement difficile présentement entre Seigneurial et Laurentienne. Ralentissement aussi considérable sur Robert-Bourassa-Sud vers le boulevard Le Bourgneuf. Puis sinon, pour ce qui est de l'accès au pont Pierre-Laporte direction nord, quelques petits problèmes aussi. Et ça vient de s'ajouter sur la 20 direction est hauteur Taniata. Il y a un véhicule en panne qui pourrait causer quelques troubles.
Toujours 7 degrés sur Québec, 21 ensoleillé aujourd'hui au maximum, 19 degrés nuageux pour mardi, mercredi, alternance de soleil et nuages 21. Et à plus long terme, on parle de 25 degrés, 24 degrés pour jeudi et vendredi. Il est avec nous, Farnell Morisset, le vulgarisateur d'actualité le plus en vogue au Québec. Comment vas-tu, mon cher ami?
Je vais très bien. Comment ça va?
Ça va super bien. Gros week-end avant qu'on passe dans le dossier. Donald Trump, Vladimir Poutine, Zelensky, Union européenne. T'as fait un gros week-end. T'as fait un 2-pour-1 commission jeunesse du Parti libéral du Québec et du Parti québécois cette fin de semaine pour toi.
Oui, les deux étaient la même fin de semaine, cette fin de semaine.
C'est particulier que ce soit la même fin de semaine?
Ouais, les deux m'assurent que c'est une coïncidence, mais okay. De ce que j'en comprends, c'est pas rare.
On est déjà dans la fameuse guerre électorale qu'on va vivre?
Peut-être, mais c'est toujours intéressant parce que les commissions jeunesse, avant, j'ai souvent dit que les commissions jeunesse c'était un peu comme des stéréotypes des partis, puis je pense que je devrais peut-être me réviser pour dire que c'est plutôt des accentuations des tendances dans les partis, mais...
Hey, pas dis donc, ça m'intrigue parce qu'on avait vu avec les jeunes caquistes où on avait axé beaucoup sur la guerre contre les syndicats. Oui. Et ça allait de pair avec Jean Boulet, son projet de loi 89 qui était controversé. Donc, qu'est-ce que tu as vu ou senti au niveau du Parti québécois et du Parti libéral?
Je veux dire, j'étais allé aux jeunes caquistes aussi. Puis les jeunes caquistes, c'était des jeunes qui étaient tous en veston-cravate, très business. C'était très on veut faire des affaires.
Fait que c'était vraiment le parti de l'économie chez les jeunes, la CAQ.
Ils se présentaient ou ils s'interprétaient certainement de cette façon-là, tandis que en fin de semaine, c'est drôle parce que j'ai vraiment pu constater, là, un jour un, l'autre jour l'autre, les jeunes libéraux sont très efficaces. On demande de ne pas applaudir dans la salle pour passer plus rapidement à travers des résolutions, puis je te dis que ça gaule puis ça avance vite. Il y en avait probablement, je dirais un peu moins, peut-être une centaine en tout personnes dans la salle à Gatineau. Puis le lendemain, c'était assez intéressant de voir la différence. Beaucoup plus de jeunes du Parti québécois à Montréal. Peut-être parce que c'était à Montréal, mais je veux dire, il faut dire qu'il y a une grosse effervescence au Parti québécois présentement. Mais ça hurle, ça crie, ça boue, tu sais, ça s'amuse dans la salle. C'est sûr que l'ambiance est peut-être un peu meilleure, mais j'ai l'impression qu'il y a bien des résolutions qui sont restées sur le plancher en conséquence.
Ben, du côté justement des jeunes péquistes, est-ce que tu as senti l'engouement là, avec les derniers sondages sur l'appui des jeunes à la souveraineté? Est-ce que tu as senti que ça venait nous donner un boost d'énergie?
Oui, les jeunes péquistes étaient clairement en train de se préparer pour un camp du oui, en train de se préparer pour un référendum, en train de se préparer pour un plan de souveraineté. Ils ont beaucoup parlé du livre bleu qui s'en vient du Parti québécois, qui se pose à être un peu l'espèce de document qui va faire l'encadrement de à quoi eux imaginent un Québec souverain éventuel prendrait comme forme. Mais oui, il n'y a pas de doute que c'était le sujet, se préparer pour un référendum et la souveraineté.
Du côté des jeunes libéraux, est-ce qu'on a un peu d'inquiétude? 9% seulement en Tabasco? Est-ce qu'on voit déjà l'effet Pablo Rodriguez diminuer? Comment est-elle l'ambiance là-bas?
Ben, c'est intéressant parce que, je veux dire, j'en ai parlé. Puis une des choses qui me sort souvent, puis là, c'est clair qu'évidemment, tout le monde presse pour sa paroisse, mais dans Arthabasca, aux dernières élections, ils ont eu 3%. Maintenant, ils ont eu 9%. Alors, eux, ils disent, on a triplé notre score. Ce qui n'est pas faux.
Bon, c'est une façon de voir les choses, mais quand même, normalement, quand tu as un nouveau chef qui vient d'arriver, tu vas chercher plus de suffrages.
Je sais pas là-dessus. Je me suis assis quelques minutes pour parler avec Pablo Rodriguez aussi, juste pour savoir qu'est-ce que lui voulait amener. Je pense que ça faisait deux mois en fin de semaine qu'il était chef. Qu'est-ce qu'il voulait amener comme valeur? Puis lui, la première chose qu'il dit, c'est moi, je veux amener de l'optimisme. Alors, je trouvais ça intéressant comme choix de réponse aussi.
Ouais, exactement. Est-ce qu'on est trop dans les clichés avec Pablo Rodriguez ou tu sens qu'il va avoir des propositions plus concrètes?
J'ai l'impression que peut-être que le Parti libéral fait le choix intentionnel de rester un peu en arrière des scènes ou pas nécessairement exploser avec sa nouvelle vision avant la fin de la personne à Arthabaska. Probablement parce qu'il savait qu'Arthabaska, c'est pas une circonscription qui avait grande chance de gagner. Alors quand on essaie de sortir, de s'établir sa nouvelle présence, sa nouvelle personnalité, ses nouvelles valeurs, et qu'on fait face immédiatement à un échec, c'est peut-être pas ce qu'il y a d'idéal. Alors moi, je m'attends probablement à ce qu'on fasse une présence médiatique beaucoup plus importante. T'sais, à toute fin pratique, je considère que probablement que la chefferie active de Pablo Rodriguez va commencer dans les prochains jours, prochaines semaines. Il voulait laisser passer la partielle en Arthabaska en premier.
Est-ce que tu as senti quand même que le choix des libéraux en tant que tel de Pablo Rodriguez, c'était vraiment aussi le choix des jeunes? As-tu senti ça en fin de semaine?
C'est intéressant. Une des questions que j'ai posées, c'est pourquoi il y a relativement peu de délégués. Je veux dire, une centaine de personnes dans la place, mais c'était pas tous des jeunes délégués.
Parce que beaucoup aimaient Charles Milliard,
ouais,
on l'entendait beaucoup. Oui,
exactement. Il est passé. Le choix de chef a été beaucoup plus proche, je pense, que beaucoup de personnes s'imaginaient. Et qu'il y avait beaucoup de gens qui me disaient que les jeunes avaient été très actifs dans la course à la chefferie pour tous les candidats différents et qui étaient peut-être fatigués du militantisme, surtout que ça fait juste deux mois que la course à la chefferie a fini. Alors, peut-être un peu pour ça, comme je disais, il y a peut-être une espèce de période où on laisse retomber la poussière et le rôle beaucoup plus actif va probablement commencer. Là.
Pour rappel, on parle avec Farnel Morisset, excellent vulgarisateur d'actualité. Puis là, on vient de faire une petite parenthèse parce que Farnel a participé aux deux commissions jeunesse, autant du Parti québécois que du Parti libéral du Québec cette fin de semaine. Farnel, on saute à notre dossier principal, c'est-à-dire Ukraine, Russie, Donald Trump dans le milieu de tout ça. Rencontre vendredi avec Vladimir Poutine. C'était-tu une rencontre entre deux vieux chums ou c'était des politiciens qui, au niveau géopolitique, ne sont pas censés être sur la même longueur d'onde?
Ben, ils sont pas censés être sur la même longueur d'onde sur plein de choses, mais ça reste que j'ai l'impression que la relation, ou au moins l'intention, c'était de communiquer que la relation entre les deux hommes était bonne. C'est une réunion qui était très intéressante sur le plan du protocole. Parce que d'habitude, quand deux chefs d'État, surtout deux chefs d'État qui sont... Les États-Unis et la Russie ne sont pas ennemis présentement, mais ils ne sont certainement pas les plus bons amis. Mm-hmm. Le protocole, c'est très important. Alors, on va faire la réunion dans la capitale d'un des pays.
Oui, et là, on était en Alaska.
Normalement aussi, il va y avoir une certaine distance qu'on va garder entre les deux chefs d'État. Là, il y a Trump qui invite Poutine dans The Beast, là, son espèce de voiture présidentielle pour qu'il continue à jaser. On avait vraiment l'impression de deux bons amis. La conférence de presse où il y a très peu de questions qui ont été permise à la fin, il y avait Trump qui parlait de « Merci Vladimir, on se reverra ». Puis Vladimir dit « Peut-être à Moscou ». Trump dit « Peut-être ». Très spécial aussi, normalement, c'est le chef d'État du pays hôte qui parle en premier. Là, ça a été M. Poutine. Il n'y a rien de tout ça qui est grave, vraiment. Là. Ça, c'est du protocole qui est généralement établi pour faciliter un peu, pour se donner un standard de comment ces choses-là vont se dérouler. Que les deux aient décidé de rompre avec le protocole pour peut-être projeter une image différente, en soi, c'est pas grave. Mais c'est bizarre. Puis ça continue dans l'espèce de lignée que la présidence Trump, c'est pas une présidence normale.
Le fait de pas vraiment prendre les questions après, t'as trouvé ça comment?
J'ai trouvé ça à l'image de M. Poutine. J'ai l'impression que ça a probablement été négocié et accordé d'avance que M. Poutine ne voulait probablement pas prendre de questions des médias des États-Unis. C'est sûr que, encore une fois, il y a rien qui oblige. Là. Vladimir Poutine était là pour parler à Trump, il était pas là pour parler à CNN puis Fox News. Alors, c'est un choix qui je pense qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui trouvent peut-être un peu malheureux, mais c'est au chef d'État à décider. Comment il faut ça.
On parle beaucoup de la fin de cette conférence de presse. Justement, je vous propose la dernière minute de la conférence de presse qu'on écoute. Puis par la suite, j'ai plein de questions pour toi par rapport à ça.
But we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant. But we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team. But we had some good meetings over the years, right? Good productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5,000, 6,000, 7,000, thousands of people a week from being killed. And President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much. And we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir.
And next time in Moscow.
Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir.
Thank you.
And thank you all. Thank you. Thank you.
Thank you so much.
Et là, j'ai laissé la fin volontairement parce que ça termine la conférence. Mm-hmm. Normalement, il y a période de questions, mais là, ouais. Les deux hommes s'avancent au milieu, donc se tassent de leurs lutrins respectifs pour se serrer la main. Là, les journalistes crient leurs questions, mais comme on l'a bien su, il n'y a pas eu de réponse. L'invitation de Moscou, t'en penses quoi? Je suis intrigué par ça.
Encore une fois, je veux dire, si on regarde le protocole normal pour ces choses-là, une réunion du genre se ferait dans une des capitales des ouais. pays. Mais si la réunion se fait à Moscou, ça enlève un peu l'optique de dire que les États-Unis sont là pour être des médiateurs.
C'est ça que je pensais. Ça enlève ce poids-là aux États-Unis si on va en terrain ennemi. Là. Puis là, les gens vont rire, les autres vont rire, mais c'est un peu comme dans Rocky IV quand Rocky s'en va combattre le méchant russe en Russie.
Ouais, et puis, tu sais, dans l'extrait que tu as joué, on entend M. Trump qui dit qu'ils sont entendus sur beaucoup de choses. Faut dire que M. Trump a quand même essuyé beaucoup de critiques parce qu'on a l'impression que à toute fin pratique, il a concédé beaucoup, beaucoup plus dans l'image, dans l'optique, inviter Vladimir Poutine, le présenter comme étant un partenaire égal dans la situation. Ouais. M. Trump est rentré en Alaska en se disant qu'il était favorable à la position d'un cessez-le-feu, qui est la position préférée du gouvernement de l'Ukraine. Et il est sorti en disant « Ah, ben tu sais, le cessez-le-feu, c'est pas si grave que ça. Ce qu'il nous faut, c'est un accord de paix. Il y a une grosse différence entre les deux. Et l'accord de paix, c'est la position qui est préféré par M. Poutine. Je pense que même à la fin, M. Poutine a très finement joué le jeu de proposer l'idée que ce soit à Moscou pour justement dire ben, les États-Unis sont regardez le monde au complet, les États-Unis sont ouverts à être près de notre bord, là. On n'est pas les méchants. Et je pense que c'est un message que clairement l'Europe a reconnu, parce qu'il y a beaucoup de leaders européens qui vont se joindre à la réunion d'aujourd'hui à la Maison-Blanche.
Et là, ce que dit Donald Trump, c'est qu'on est en position du côté de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, de mettre fin à cette guerre-là. On a cependant à accepter certaines conditions.
Ouais, et je pense que ça va être très intéressant de voir aujourd'hui si les États-Unis, si l'administration Trump joue un rôle de médiateur réellement, ou s'ils sont un peu comme en train de faire ce que les alliés faisaient vers la fin de la Deuxième mondiale, à diviser les territoires comme la Pologne puis ces pays-là entre les deux grands côtés. Est-ce que Trump est un médiateur ou est-ce que c'est un courtier immobilier de l'Ukraine? Présentement, on va voir aujourd'hui, je pense, à mesure que les détails vont sortir. Tout le monde dit qu'une fin des hostilités est possible, mais on sait que la Russie demande essentiellement la Crimée et le Donbass. L'Ukraine n'est pas prête à accepter ça. Alors, si Trump dit qu'une fin des hostilités est proche, est-ce que Trump va commencer en disant ben, « Je pense que tu devrais accepter l'entente de Poutine, puis si tu ne l'acceptes pas, on arrête de te fournir des armes. » On va voir là, à quel point est-ce qu'il a pris un bord ou à quel point est-ce qu'il est encore prêt à écouter les deux côtés puis essayer de jouer le rôle de médiateur.
La présence importante des hauts dirigeants européens aujourd'hui, le chancelier allemand, le président Macron notamment, qui vont être présents pour appuyer Vladimir Zelensky. Tu vois ça de quel œil? Moi, de mon œil, je vois ça comme, OK, l'Europe est vraiment inquiète que la Russie va avoir gagné du territoire, puis est inquiète d'une attaque future de la Russie dans un autre pays ou même en Ukraine. Tu vois ça du même œil que moi?
Je pense que les leaders européens sont en train essentiellement de envoyer le message très clair qu'ils sont en train de jouer le tout pour le tout. Ils savent que, t'sais, malgré toutes les critiques que j'ai de l'administration Trump pour sa politique interne, sa politique internationale veut à tout prix éviter les guerres et surtout éviter que des guerres locales se régionalisent et éviter que des guerres régionalisées se généralisent. Présentement, la guerre en Ukraine est une guerre locale, mais c'est une guerre locale qui a des grosses implications pour l'ensemble de l'Europe par la suite. Et avoir une si grosse présence des chefs européens à la Maison-Blanche, je pense que c'est pour envoyer un message qui dit « Écoutez, là, M. Trump, l'administration Trump, si vous cessez vos appuis à l'Ukraine, si vous prenez une position qui est conciliante envers la Russie, nous, les puissances européennes, on va être obligés de prendre un cran additionnel, ce qui pourrait régionaliser la guerre. » Et puis ça, c'est pas dans les intérêts de l'administration Trump, c'est pas dans les intérêts de personne, je pense. Mais il y a beaucoup de chefs européens qui se disent qu'ils ne peuvent pas permettre la Russie de remporter cette guerre-là, parce qu'après ça, il y a rien qui les assure que dans 5, 10, 15 ans, la Russie va pas réessayer et continuer son avancée à travers l'Europe petit à petit.
As-tu un bon feeling pour aujourd'hui ou...
Ben, la dernière réunion entre Zelensky et Trump, c'est pas très bien passé. Alors, je veux dire, la barre est basse. J'ai l'impression que ça va sûrement aller beaucoup mieux que ça. Mais, tu sais, encore une fois, j'ai des grandes critiques envers l'administration Trump. Je pense que sa politique interne est extrêmement dangereuse culturellement pour tous ses alliés. Mais à l'international, je crois que l'administration Trump veut sincèrement la paix. Et il faut se rappeler que peu importe ce qui arrive, un jour, à moins qu'on veut l'anéantissement de l'État russe, un jour, il va falloir faire la paix avec la Russie. Et je crois que probablement que M. Trump, il veut un deal et il l'approche de cette façon-là quand les chefs européens voient ça plus dans une question de géopolitique qu'une question, disons, business. Mais je pense qu'une présence tellement forte de gens que M. Trump ne peut pas ignorer, là, le chancelier allemand, le premier ministre anglais, le président français, chef de l'Union européenne, même le secrétaire des Nations unies. Ça, ce n'est pas des voix que, quand ils sont tous de concert, M. Trump peut les ignorer. La vraie question pour moi, je pense que ça va être c'est quoi un gain, c'est quoi une victoire pour eux? Puis je pense qu'une victoire pour eux, ce serait peut-être que M. Trump revienne à la position plus ukrainienne, un cessez-le-feu en premier et on négocie un accord de paix après, plutôt que la position russe qui est on continue à se tirer dessus en négociant un accord de paix parce que c'est à leur avantage d'étirer les négociations.
Oui, parce qu'en étirant les négociations, on va pouvoir gagner un petit peu plus de territoire. Tu viens d'ouvrir la parenthèse sur la politique interne de Donald Trump. Garde nationale en Californie pour la politique en immigration, les manifestation qu'il y avait. Le garde national à Washington. Aujourd'hui, dans les médias, on lit que ça va être Baltimore.
Ouais, les autres villes commencent à se préparer.
C'est dangereux, ça, qu'un président commence à utiliser la garde nationale pour son propre désir?
J'ai l'impression de regarder l'espèce de joke plate de la grenouille qui bouille tranquillement. Ouais. On a commencé à Los Angeles en envoyant des forces armées directement sous le contrôle du président en tant que chef des forces armées, mais il était juste là pour protéger les bâtiments fédéraux, il était juste là pour protéger les agents. En théorie, il ne faisait pas d'opération policière, il ne faisait pas d'arrestation. Alors ça, c'était clairement, je veux dire, c'est extrême, ce genre de choses qui, dans une période normale, aurait été la pierre angulaire de comment l'histoire va se rappeler d'un président, mais bon, M. Trump fait bien des affaires. Là, on est à D.C., la ville de Washington, D.C. a un statut très particulier, c'est une ville qui est gérée directement par le gouvernement fédéral, alors le président peut décider de déployer des forces armées directement sous son contrôle et de nationaliser la police, mais on augmente toujours d'un cran, puis on augmente toujours d'un cran, puis on regarde comment est-ce que la population réagit, comment est-ce que les médias réagissent, on envoie la ballonne, c'est plus qu'envoyer la ballonne, on le fait pour de vrai.
C'est ça, c'est qu'au lieu d'être un ballon politique comme on connaît dans le jargon, c'est-à-dire j'envoie quelque chose dans l'univers médiatique, je regarde comment la population réagit et j'ajuste ma décision. Là, on assiège carrément des villes, on regarde comment la population réagit, puis on se dit bon, ouais. Ben écoute, je vais en assiéger plus.
C'est ça, on en fait toujours un peu plus, et M. Trump le fait à coup de déclaration d'urgence. Moi, je regarde ça, puis je vois surtout une leçon sur l'importance de limiter les pouvoirs discrétionnaires qu'on donne aux chefs d'État par mesure de déclaration d'urgence.
Parce que les déclarations d'urgence sont plus des déclarations d'urgence.
Ben, je veux dire, c'est ça, là. Mettons que l'urgence est un peu facile. C'est dire que Washington, D.C. était... À l'écouter, t'avais l'impression que c'était Thunderdome, ce qui se passait là-bas, là, que c'était un film des années 80 où c'est la guerre ouverte. C'était pas ça, là. Je veux dire, j'ai des amis à D.C., là. Ils comprennent pas pourquoi... ils comprennent, ils savent ce qui se passe, mais ils trouvent que c'est absolument ridicule de dire que c'est une situation d'urgence.
Puis tu penses que ça va aller jusqu'où? Tu sais, on parle de ballons, que c'est plus que des ballons, qu'on le fait pour vrai. Puis dans quel but? On veut aller où avec ça?
Ça va aller jusqu'à ce que l'administration Trump sente une résistance plus grande qu'ils sont prêts à affronter. Et bon, encore une fois, Los Angeles, ça n'a pas été facile. D.C., ils ont une porte facile parce que c'est une ville particulière. Mais je pense que s'ils essaient de le faire à Baltimore, à New York, avec des forces armées qui répondent directement du président et qui appliquent les lois directement contre les citoyens, ben, ça, c'est le genre de choses. Les États-Unis se sont fondés par une révolution armée contre une puissance qui essayait de faire ça. Alors, où est-ce qu'on s'en va? Je ne sais pas. J'espère qu'on ne se rend pas là. Mais c'est la fin ultime théorique.
Non, c'est ça. Il y a tout de même, sans dire qu'il y a un risque, c'est tout de même une possibilité. Ouais. Et à l'heure actuelle, ben, c'est sûr que les libertés individuelles là, sont brimées là, par la façon de faire de Donald Trump.
Ben, ça ressemble beaucoup à ça, surtout quand c'est l'armée, les forces armées qui sont supposées défendre le peuple contre des ennemis étrangers qui sont en train de défendre, à toute fin pratique, le gouvernement contre des éléments du peuple. C'est une scission qui est dangereuse.
Farnell Morisset, meilleur vulgarisateur de l'actualité. Suivez-le sur TikTok et sur ses médias sociaux. Merci beaucoup pour ta présence avec nous ce matin.
Merci de m'inviter. C'est toujours très agréable de vous parler.
Je te souhaite une excellente semaine. Puis on se reparle au besoin parce que ça va brasser pas mal dans l'actualité
internationale. On n'en manque jamais.
Non, depuis que Donald Trump est au pouvoir aux États-Unis, on manque jamais de sujets à parler à chaque semaine. Merci beaucoup, Farnell, pour ta présence ce matin. On fait une courte pause. Par la suite, on revient avec l'essentiel de l'actualité avec Mathias Turcotte. On va parler, entre autres, de ces transformations numériques-là qui battent de l'aile dans le domaine de la santé. Puis oui, qui vont coûter énormément d'argent en trop. Vous êtes à Boulevard 101, c'est Boulevard Against le matin.
Jusqu'à 10h, Boulevard.